Jacques Masson de Déambi pour Le Journal.
Joseph Kabila a saqué ce vendredi à la mi-journée. Il a promis de sécuriser davantage cette localité au nord Kivu, théâtre des affrontements armés le week-end dernier entre les forces régulières et des troupes insurgées fidèles à Laurent Kunda. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida ce 1er décembre. En Mbandaka, province de l'Équateur, les activités de lutte contre le sida en RDC, presque inexistantes dans les parties enclavées de cette province. À Chikapa, au Kasaï occidental, le taux de prévalence de plus de 7% inquiète. Flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité à Kisangani, province orientale. Les prix ont doublé, voire triplé dans les grands marchés de la ville. Même situation observée au marché de Mbujimayi. Là, nous sommes dans la province du Kasaï oriental. Mesdames et messieurs, bonsoir. Deuxième journée de visite de Joseph Kabila dans la province du Nord Kivu. Il s'est rendu à Sake ce vendredi en milieu de la journée. Il a promis de sécuriser davantage cette localité située à 27 km de Goma et théâtre le week-end dernier d'affrontements armés entre les forces régulières et des troupes insurgées fidèles à Laurent Kunda. Le chef de l'État congolais promet également une assistance matérielle à la population de Sake éprouvée par les combats et des nombreux déplacements. Rosalie Zawadi.
Une visite de consolation et de réconfort moral, déclarent les notables des Sakés qui ont pris part à la réunion qui a suivi la visite par le chef de l'État des lieux qui ont été les théâtres des combats du week-end dernier dans la cité des Sakés. Le président nous a assuré de renforcer la sécurité à Sakés. Il nous a également promis de mettre fin, une fois pour toutes, au phénomène Kunda. Lui-même sait de quelle manière, ajoutent les notables des Sakés, revenir à Goma pour constituer les comités restreints qui doivent recevoir, au nom de la population éprouvée, l'assistance matériel promise par le chef de l'État. Eux-mêmes n'en connaissent pas encore la nature. Les restes du séjour de Joseph Kabila à Goma n'est toujours pas connu. Très peu de gens l'ont vu jusque-là. Ils ont toutefois des attentes.
Nous sommes très contents parce que le président est venu. Nous pouvons lui demander seulement une seule chose, d'aider cette population trop longtemps affectée par la guerre, de nous aider ici à l'Est, où l'Est a voté massivement pour lui, qui nous aide vraiment de ne plus recommencer à voir les guerres comme avant. Et surtout, voir comment punir ces gens-là qui font la guerre et voir comment même les arrêter ou bien les juger. Parce que c'est intolérable de voir que chaque fois il y a la guerre, tuer les gens, que les gens se déplacent. Nous avons dépassé ces niveaux. On veut reconstruire notre pays.
Nous savons déjà que le président est ici et nous voudrions assez qu'il fasse tout pour attraper M. Kunda et que Kunda soit traduit en justice, comme Thomas Lubanga.
Rappelons qu'entre 12 et 15 000 personnes avaient fui la guerre du week-end dernier à Sake. Elles attendent que la cité retrouve toute la sécurité nécessaire pour rentrer dans leurs biens. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Avant de s'envoler pour le Nord Kivu, Joseph Kabila a rencontré hier à Kinshasa Jean-Pierre Bemba. Selon le secrétaire général du PPRD qui a accompagné le président de la République à la résidence du vice-président Bemba, cette visite démontre entre autres la volonté du chef de l'État d'impliquer tout le monde dans les efforts de la reconstruction nationale. Il affirme par ailleurs que le vice-président Jean-Pierre Bemba ainsi que d'autres vice-présidents garderont certains avantages dus à leur rang. Vital Kamerhe, joint au téléphone par Guy Maté.
Le président a voulu d'abord montrer à tous les peuples congolais qu'il est le président de tout le monde. La deuxième, c'est de dire à tout le monde qu'une page de notre histoire de 46 ans de misère doit être tournée. Nous devons nous souder les coudes, nous réconcilier entre nous pour qu'ensemble nous puissions aller au rendez-vous de la reconstruction avec ceux qui ont gagné et avec ceux qui ont perdu. Le président allait rassurer le vice-président Jean-Pierre Bemba. Vous devez savoir que Jean-Pierre Bemba, comme tout être humain, avait des inquiétudes, tout comme le président Kabila aussi, en regardant les comportements de certains éléments incontrôlés qui se réclamaient du vice-président de la République, avait aussi des raisons de se sentir en insécurité. Il fallait donc que les deux se rencontrent pour qu'ils puissent se dire, les yeux dans les yeux, que nous devons œuvrer pour la sécurisation de notre pays.
Quel sera le statut de M. Jean-Pierre Bemba après la prestation de serment du chef de l'État et quel sera le sort de sa garde?
Le président de la République, au moment où je vous parle, a déjà signé un décret qui reconnaît non seulement M. Jean-Pierre Bemba, à tous les vice-présidents sortants de garder certains avantages. Mais je dois vous dire qu'ils gardent un minimum d'éléments de sécurité, ils gardent une partie des véhicules officiels et ils seront logés par l'État.
Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba ont abordé des questions du pays lors de leur rencontre d'hier. Ces propos sont ceux du directeur de cabinet du vice-président Jean-Pierre Bemba. Fidel Babala place cette visite dans le cadre de la courtoisie du chef de l'État et il affirme que les questions de sécurité n'ont pas été évoquées. Fidel Babala a été joint par Guy Maté.
Le vice-président a reçu effectivement hier la visite du président fraîchement élu. Ils ont traité de questions de courtoisie d'abord et ils ont abordé les grandes questions du pays.
Quelles sont ces questions qu'ils ont abordées?
Je ne vais pas mettre sur la place publique, hein, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Au-delà de la visite, hein, c'est la symbolique qu'il faut observer. C'est deux adversaires politiques après un combat électoral qui s'est passé de la manière dont on sait. C'est la première fois qu'ils se sont vus. Ce n'est pas à cause d'une visite privée qu'on règle des questions de sécurité. Le président, de toute façon, s'est prononcé de manière publique et claire, disant qu'il allait faire une opposition républicaine forte. Nous allons structurer cette opposition. On n'attend rien de spécial de Kabila. On va observer la façon dont il va gouverner le pays et nous espérons que ça sera suivant les intérêts de la majorité de la population.
Pendant ces temps, les opérations électorales à la Commission électorale indépendante se poursuivent. L'heure est à la publication des résultats provisoires des élections provinciales. L'annonce de cette publication a été faite ce vendredi au Grand Hôtel Kinshasa par le président de la CEI. Ces résultats peuvent être consultés sur le site de la CEI www.cei-rdc.org. Évaluation de la mission de l'Euphor en RDC. La mission de l'Euphor est un succès. Quant à la tenue dans le calme du second tour de la présidentielle en République démocratique du Congo, le commandant de l'Euphor l'a déclaré ce vendredi au cours du point de presse hebdomadaire de la mission militaire européenne en RDC. Revenant sur la question de l'insécurité à Kinshasa, le général Damey a signifié que c'est une charge qui revient avant tout aux FRDC et à la police nationale congolaise. Christian Damey, commandant de l'Euphor, au micro de René Capitapelezo.
Si on se pose la question de la sécurité dans ce pays, il est bien sûr qu'on pourrait rester beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on considérait que cette force forte, elle vient en renforcement du rôle que joue actuellement la MONUC. Certainement, la MONUC a 17 000 hommes, c'est la plus grande force internationale qui soit déployée quelque part. Mais c'est vrai que si on voulait assurer la sécurité partout au Congo, il faudrait plus que la MONUC. On pourrait rester là pour contribuer à assurer la sécurité. Mais cette mission, elle a été remplie. La MONUC ici, mais aussi avec la police, les forces armées, etc., étant en charge de la sécurité du pays.
Vous écoutez Radio Capi à Kinshasa. Les agents du Centre de recherche en sciences humaines, CRECH en sigle, inquiets pour leur sécurité. C'est la suite à la présence d'une roquette non explosée sur le toit d'un des bâtiments de ce centre, sur l'avenue du comité urbain dans la commune de la Gombe. Cet engin s'y est retrouvé juste après les affrontements d'août dernier dans le même secteur. Nous vous proposons de suivre le témoignage du président de l'Observatoire des médias congolais, Polydore Mouboya, dont l'institution se trouve dans l'enceinte même du CRECH. Il est interrogé par Ribio Nzeza.
On a constaté qu'il y avait un objet métallique qui habituellement ne se trouve pas sur la toiture du bâtiment ici derrière moi. À partir de ce moment-là, on a cherché à savoir quelle était la nature de cet objet. Fort heureusement, les responsables du centre de recherche en sciences humaines ont eu l'idée ingénieuse de faire appel aux responsables militaires de la MONUC pour qu'ils viennent voir et essayer de savoir de quoi effectivement il s'agissait. C'est à ce moment-là qu'on a su tous qu'il s'agissait d'une roquette, et pas n'importe quelle roquette, mais une roquette de la dernière génération de roquettes. Et on a vu il y a 24 heures, il y a une équipe de forces armées congolaises qui est arrivée ici. Et je pense qu'à ce niveau-là aussi, on est occupé à chercher une solution. Nous formons l'espoir que cette solution va rapidement arriver parce qu'il ne faut pas agir lorsqu'il sera trop tard.
Au Nord Kivu, à nouveau, au moins 18 maisons ont été pillées dans la nuit de jeudi à ce vendredi par des bandits armés dans la cité de Kaina, située à environ 160 km au nord de Goma, en territoire de Lubero. Selon le chef de cette cité, il s'agit des quartiers de Buhuru et le quartier Makassi concernés. Les bandits ont emporté essentiellement des effets des ménages. Toujours selon lui, les quelques militaires postés à 2 km du lieu de pillage n'ont pas pu empêcher ces actes suite à un problème d'effectifs réduit. L'actualité se poursuit dans la province de l'Équateur. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida ce 1er décembre. Il y a plus de 10 ans que la République démocratique du Congo célèbre cette journée. Malgré les efforts du programme national de lutte contre le sida, la province de l'Équateur a encore un grand travail à fournir. Toutes les structures de lutte contre cette pandémie ne sont concentrées que dans les grandes villes. Régine Bokoumanzango.
national de lutte contre le sida, la province de l'Équateur atteint une prévalence de plus de 5%. Mais certains activistes engagés dans la lutte contre la pandémie estiment que ces statistiques ne sont qu'approximatives, car toutes les structures de lutte et de prise en charge des maladies restent plus opérationnelles dans des milieux urbains que dans l'arrière-province, notamment en Mbandaka, Gbadolité, Gemena, Lissala et Bassankoussou. Rares sont les localités qui, à ce jour, organisent des activités de dépistage et de lutte contre les sida à l'Équateur, un fait que regrette Jean-Marie Bolika, le coordonnateur de l'ONG Initiative Locale pour le Développement Intégral dans les territoires de Djolou. Mais comment faire pour lutter efficacement contre les sida à l'Équateur? Jean-Marie Bolika propose.
J'insiste sur l'opérationnalité du programme national multisectoriel de lutte contre le sida, que ce programme puisse disposer des moyens conséquents pour mener à bien son action. Et ensuite, du gouverneur de province qui soit totalement impliqué dans la lutte contre le sida, lui et ses collaborateurs, notamment les conseils de district et les administrateurs de territoire. Et en plus de cela, la mise en place des circuits de dépistage volontaires dans chaque territoire. Mais en plus, il y a l'implication des jeunes.
Les grands souhaits de la population à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du sida 2006 est de voir les organismes humanitaires et des structures de prise en charge de la maladie s'implanter dans l'Équateur profond. Mbandaka, Régine Bokoumanzango, Radio Okapi.
Direction Kasaï Occidental, la coordination du programme national de lutte contre le sida décrit l'augmentation du taux de prévalence de sida dans la ville de Chikapa. D'après ses enquêtes, le taux de 7,8% enregistré dans cette ville est inquiétant, d'où la nécessité de renforcer les activités de sensibilisation et de dépistage volontaire dans cette ville pour prévenir et surtout réduire la propagation de cette pandémie. Docteur Davis Kabongo, coordonnateur provincial, est au micro de Pierrot et Lamégie.
La séroprévalence à Chikapa est la prévalence qui est élevée même au niveau du pays. C'est le fait que Chikapa régorge des carrières minières. Il y a un trafic intense, il y a assez de professionnels de sexe, et le trafic de la drogue étant, le trafic du sexe étant, la prévalence ne peut être qu'augmentée. Donc les stratégies, c'est d'abord la sensibilisation pour un changement des comportements. La deuxième voie, il faudra qu'on crée normalement de conseils de pistage volontaire où les personnes y vont, ils sont informés de ce que c'est le sida. Pour ceux qui seront personnes vivant avec VIH mais éligibles au traitement, on va les mettre sous traitement ARV. Je pense qu'on peut réduire sensiblement ces taux de prévalence dans notre province.
Économie à présent, flambée des prix de denrées alimentaires de première nécessité observée à Kisangani, province orientale. Les prix du riz blanc, des arachides, de l'huile de palme, du maïs et autres denrées ont doublé, voire triplé dans le marché du centre-ville. Pour cause, la forte montée des eaux du fleuve Congo empêche les armateurs de venir à Kisangani. Ces derniers craignent de faire naufrage. Des précisions avec Aliana Alipanagama.
Il s'agit plus particulièrement des denrées alimentaires en provenance des localités situées en aval du fleuve Congo. Ces produits sont acheminés à Kisangani par des grosses pirogues. Avec la montée spectaculaire des eaux du fleuve Congo, constatée ces dernières semaines, les armateurs hésitent d'engager leurs embarcations par crainte de naufrage avec le courant fort du fleuve, ont constaté le gérant du marché IAT au bord du fleuve. Conséquence, les prix des produits de consommation courante ont galopé, constat également fait par les femmes ménagères. À titre d'exemple, un bidon d'huile de de 20 litres est passé de 4 000 à 6 000 francs congolais. Un panier de concettes de manioc coûte actuellement 3 500 au lieu de 800 il y a une semaine passée. Un gobelet d'arachide s'achète à 280 francs congolais au lieu de 160. Le sac de braise et le bois de chauffage se font également rares sur les marchés. Toujours à cause de la crue, les marchés IAT et Djoubou-Djoubou, deux des grands de la ville, sont inondés et devenus inaccessibles aux vendeuses et vendeurs. Aliana Alipanagama, Kisangani, Radio Okapi.
Les prix des denrées alimentaires ont aussi pris de l'ascenseur sur le marché de Mbujimayi depuis bientôt 3 jours. Là, nous sommes dans la province du Kasaï oriental. L'actualité en dehors de nos frontières, en Centrafrique, l'armée centrafricaine a repris le contrôle jeudi soir de la localité de Ouada, à environ 700 km au nord-est de Bangui, après d'intenses combats avec les rebelles, et elle poursuit ce vendredi son offensive vers le nord-est du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente condition d'écoute sur Radio Okapi. Okapi.